Marilyn nous guide jusqu'à la place cathédrale. Nous entrons dans la cathédrale Saint-Paul. Ah, c'est là qu'il se cache le beau diable.
Oh oui, dit, vraiment superbe.
Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer devant la beauté de ce jeune homme assis sur un rocher, juste en dessous de la chaire de vérité. Mis à part deux petites cornes qui émergent des cheveux ébouriffés et les ailes de chauve-souris plantées dans le dos, cette statue de marbre blanc m'a plutôt l'air de représenter un ange. Chacun y va de son commentaire. « Eh oui, un ange déchu, » explique Marilyn. Alain me dit, « Il pourrait facilement faire la une de Têtu. »
T'as compris, toi, le cerveau ? Moi, j'ai entendu la une de Têtu. Ou la une de Têtu.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Comprends pas.
Excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. J'ai compris Têtu.
Oui,
c'est le nom d'un célèbre magazine pour homo.
Ah, c'est pour ça que je ne le connais pas.
Oups, avoir la tête d'Alain, j'ai fait une boulette. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, je tente la carte de l'humour. Désolée, ma maladresse habituelle. C'est comme le jour où ils ont organisé un immense rassemblement d'homosexuels. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était en été, il faisait super beau. Et ils avaient organisé une grande randonnée à bicyclette. Mais tu sais, pas les vélos ordinaires, les vélos à deux places, là.
Comment est-ce qu'on dit déjà ?
Alain vient à mon secours. En tandem ?
Ah, tu y étais ? Eh ben, tu vois.
Ouf, vive l'humour apagogique. Mais fais gaffe quand même, triple bus. Nous quittons la cathédrale et suivons Marilyn qui nous guide à travers les rues de Liège, tandis que nous devisons dans la bonne humeur. Arrivé rue Hors-Château, je sens que je vais vite comprendre pourquoi on parle de Haut-Coteau. Nous voici au pied de la montagne de Buren, une pittoresque ruelle composée de 373 marches. Petite séance de photos pour immortaliser l'instant. « Bonne idée, Marilyn, lui dis-je. Si on reprend des photos en haut de l'interminable escalier, on pourra composer un mémorable avant-après. Je serai effectivement curieuse de voir nos têtes à l'arrivée. » Pour l'heure, Alain se tient bien droit, les cheveux mi-longs au vent. Blanc, les cheveux. Curieux contraste avec ce visage jeune qui respire la bonhomie et la douceur. Animé d'un regard bleu-gris intelligent. Jeans et veste en cuir. Même l'allure est jeune. Un peu comme un pied de nez au temps qui n'aurait eu d'emprise que sur les cheveux. Il tient sa Marilyn par l'épaule. Elle paraît toute menue à ses côtés. Cheveux bruns et longs, jeune silhouette élégante et fine. Elle me fait penser à une petite belette aux yeux noisettes, le regard pétillant et futé. Après avoir rangé l'appareil photo dans son petit sac à dos, Marilyn tend celui-ci à Alain.
« Tu veux bien porter mon sac ? Je t'assure que j'y arriverai pas. »
Et la voilà qui s'élance avec ardeur à l'assaut des marches, le buste en avant, lancé dans un discours qui se révélera vite intarissable. Tandis que j'entame l'ascension, dos bien droit, inspirant profondément à intervalles réguliers dans l'intention de grimper à un rythme lent et constant, Alain tente de freiner Marilyn.
Mais tu n'y arriveras pas comme ça, tu vas beaucoup trop vite, ralentis et tais-toi pendant la montée.
Mais Marilyn, déjà essoufflée avant d'arriver au premier palier, d'insister.
Je t'assure, je ne me sens pas bien depuis quelques jours déjà. Non, mais c'est vrai, je dormis.
Je m'applique, accordant mes pas au rythme de ma respiration, tentant de ne pas me laisser distraire par la tirade de Marilyn. Alain est en tête. Je le suis une dizaine de marches plus bas et je devine au son décrescendo de la voix de Marilyn qu'elle ne suit pas.
« Attendez-moi » crie-t-elle soudain d'une voix aiguë.
Je ne peux m'empêcher de pouffer. Je m'arrête, me retourne et l'encourage. Alain, qui a fait de même, retente de lui faire comprendre qu'à parler sans cesse, elle ne fait que s'essouffler et gaspiller son énergie. En vain. Marilyn a repris l'ascension.
et la parole. Dès qu'elle arrive à ma hauteur, je l'accompagne, mais ne peux m'empêcher de rire. Elle met autant d'énergie à déverser son flot de paroles qu'à gravir les marches. Je prends Alain à témoin. Impossible de gérer sa respiration pour grimper, elle nous fait rire, alors nous perdons autant notre souffle qu'elle. Alain, patient, tente une nouvelle fois de la raisonner gentiment. « Mais tais-toi, tu t'essouffles comme ça !» Rien n'y fait. Nous poursuivons l'ascension, chacun à notre rythme, accompagné de la voix de Marilyn qui ne se tait pas une seule seconde. « Ce man travaille et qui est depuis... Attendez-moi !» Sans nous concerter, Alain et moi avons vite pris ce point de repère dans la logorée de Marilyn pour nous arrêter. Nous prodiguons force, encouragement à notre corps randonneuse, notamment à épargner sa salive et nos oreilles accessoirement, mais sans résultat. Nous achèverons l'ascension au son des paroles inintelligibles de Marilyn, ponctuées de quelques « Attendez-moi !» qui auront systématiquement pour effet de me faire pouffer de rire. Une randonnée dans les fagnes, qu'il disait. Alain s'est assis pour nous attendre sur l'un des bancs que la ville a eu la bonne idée d'installer à trois paliers, à l'intention des courageux grimpeurs. Nous y ferons une pause bienvenue. J'en profite pour prendre une photo des amoureux les yeux dans les yeux. Arrivés en haut, nous contemplons la ville. Alain sort l'appareil du sac pour immortaliser la vue plongeante et s'exclame à l'adresse de Marilyn. « Mais qu'est-ce que tu as tout mis là-dedans ?» Il sort un carnet du sac. « Tu as pris ton journal intime ?»« Non, c'est mon carnet professionnel. »« Ton carnet professionnel ? Tu prends ton carnet professionnel en balade, toi ?»« Me dis, à partir de maintenant, c'est toi qui le portes, hein, ton sac. »« Oh non, je t'en supplie, vraiment, je ne pourrais pas. » Alain n'insiste pas et garde le sac. Nous commentons gaiement notre exploit. La toute dernière maison de la montagne de Buren abrite un cabinet médical. Marilyn le prend en photo tellement l'idée nous amuse. L'idée qu'après l'ascension, certains d'entre nous aient besoin d'un médecin. Alain a repris la marche et s'engage dans la rue du Péri. Nous lui emboîtons le pas. Je reconnais un peu plus haut le parc de la Citadelle. Encore un petit effort à grimper une nouvelle volée d'escaliers pour rejoindre le boulevard du 14e de ligne et nous voilà arrivés au point culminant de notre promenade. Boulevard qui n'a d'ailleurs de boulevard que le nom. Une petite rue à mes yeux, certes bordée d'arbres, mais paisible et quasi déserte. La vue est belle sur la cité ardente. Une alternance au premier plan de prairies escarpées parsemées d'arbres et de bosquets plus denses aux arbres dénudés. Une multitude à l'arrière-plan de bâtiments variant les styles et les fonctions. Le vert tendre des prairies apporte une touche apaisante au gris, brique et blanc des bâtiments et au beige de la Meuse qui s'écoule paisiblement, échappant au temps. Le tout inondé de la lumière orangée du soleil qui ne va plus résister longtemps à l'envie de se coucher. Après quelques minutes de contemplation silencieuse, nous reprenons notre balade. Alain m'explique. Nous redescendrons le coteau par un petit sentier. Le tout est de ne pas le manquer. Il ajoute quelques dizaines de mètres plus loin. Ah, le voilà. Marilyn est à la traîne. Attendez-moi ! Nous nous plions de bonne grâce à l'injonction et Marilyn en profite pour nous prendre en photo. Alain lui dit « Dis, c'est pas le but, hein ? Nous nous arrêtons pour t'attendre et toi, tu t'arrêtes aussi pour prendre des photos ?» Il peine à cacher l'agacement que je sens poindre dans sa voix. Le sentier n'est pas très large, mais bien aménagé. Un long serpent de briques bordé de pierres. Mieux vaut se tenir bien au milieu du sentier, car si nous bénéficions d'un temps clément pour notre promenade, les jours précédents nous ont apporté de la neige fondue ici entre-temps et les feuilles mortes humides qui jonchent les pierres les ont rendues glissantes. Je marche précautionneusement, mais réussis malgré tout à glisser sur une plaque d'égout sur laquelle j'ai eu la mauvaise idée de poser un pied énergique. Je parviens toutefois à retrouver mon équilibre à l'aide de moulinets des bras, mais ne peux m'empêcher de m'écrier « Ça glisse, hein ?» Ben oui, on a vu. Elle est tout de même étonnante, cette réaction universelle au dérapage. Je me souviendrai toujours de ce professeur, une dame assez petite. Elle trimballait toujours une mallette qui paraissait tellement démesurée au bout de son bras. Une partie de la cour de l'école s'achevait par un plan incliné. Et un jour de verglas, la pauvre femme s'étala de tout son long, la mallette renforçant le côté spectaculaire de la chute devant les élèves qui, manque de chance, étaient précisément en récréation à cet instant. Elle s'était relevée et dans un petit sourire d'excuse, s'était écriée « Ça glisse, hein ?» Ben oui, la pauvre, que pouvait-elle dire d'autre pour cacher son embarras ? Nous arrivons à un embranchement. Alain explique. Le sentier de gauche est plus praticable, mais plus long, car moins abrupt. Le chemin de droite est plus court, mais le sol n'a pas encore été aménagé. Marilyn s'inquiète pour ses baskets neuves, mais nous la rassurons. Le sol n'a pas l'air en si mauvais état qu'on pourrait le croire à première vue. D'accord pour la droite alors. En route. Quelques centaines de mètres plus loin, nous comprenons notre erreur. La voie est sans issue. Demi-tour, non sans quelques bougonnements des baskets de Marilyn qui ne tardera pas à crier « Attendez-moi !» J'ouvre la marche. Au moment précis où je remets les pieds à la bifurcation où nous avions pris la mauvaise décision, j'annonce « Retour à la case départ ». J'entends Alain répondre dans mon dos « Transhumance ». Alors quoi, le cerveau, tu dors encore ? Il doit bien avoir un lien logique. Mais quelle drôle d'acception pour le terme « transhumance ». Je poursuis mes réflexions tout en marchant, les yeux fixés au sol pour m'éviter une nouvelle glissade. Soudain, un son de cloche résonne à mes oreilles. Voilà que j'entends sonner des cloches à présent, comme mon cerveau fait-il. Je ne l'ai pourtant pas encore compris. Mais non, j'entends réellement une cacophonie de clochettes. Soudain, mes yeux viennent en aide à mon cerveau embrumé. Je n'y crois pas. Des moutons sont en train de gravir les coteaux comme bon leur semble. Ah oui, Marie, ils ne vont pas nécessairement suivre gentiment le tracé du sentier, hein ? Un vieux berger les suit. Vieux jeans, vieil anorak, vieux gants de travail, bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles, sourire chaleureux quand Alain entame la conversation. Vous allez jusqu'où comme ça ? Juste derrière le coteau. Et vous en avez combien comme ça ? On sent le bruxellois. 20 moutons et 2 chèvres. Bien, eh bien, bonne route et bonne fête. Nous commentons notre incroyable rencontre tout en reprenant notre promenade. Je m'enquiers auprès de mes amis. Vous avez vu le détail qui tue ? L'homme tenait à la main un parapluie pour dame à toile bleu roi, fermé. Détail saugrenu s'il en est, mais bienvenu. Pour un peu, mon cerveau se serait cru en voyage dans le temps. Retour au Moyen-Âge. Marilyn se tourne vers Alain. « Pourquoi tu lui as souhaité bonne fête ?»« Parce que c'est bientôt la fête du mouton. »« Je ne sais pas exactement quand, mais je sais que c'est bientôt. »« Il les emmène probablement à l'abattoir. » Marilyn s'offusque. « À l'abattoir ? Tous ces moutons ?»« Ben oui. »« Mais pourquoi ? Ils vont être mangés, ces moutons ?» Ben, tu sais, c'est un peu l'idée. Se tournant vers moi, il ajoute, Marilyn n'est pas très viande, vois-tu. Pauvre Marilyn, moi aussi j'aimerais autant que ce soit vraiment la fête du mouton. J'ai toujours aimé les histoires pour enfants, et j'imagine sans peine, moi, les moutons à la fête, dansant la farandole, un chapeau pointu sur la tête. Mais non, ma pauvre Marilyn, c'est la fête du mouton pour tout le monde, sauf pour le mouton. Arrivé au pied du coteau, le voyage dans le temps se poursuit. 4 jeunes gars en surcot à blason se disputent un combat amical à l'épée. Très fort, le cerveau. Voilà que tu réussis à présent à t'imbiber de l'alcool qu'ingurgit tes camarades. Bonjour, lance joyeusement un des lurons.
Ah non, je suis toujours au présent.
Mais je découvrirai vite que le voyage dans le temps n'est pas fini pour autant.
Alain nous propose de nous désaltérer à la maison du Péquet.
Bien oui, nous sommes à Liège tout de même. Ville réputée pour son eau de vie aux genièvres, déclinée en une trentaine de parfums.
J'y prendrai pour toi un thé au lait.
Une année passée en Angleterre, cela laisse des traces. Mais Alain et Marilyn sauveront l'honneur en commandant tous deux un Péquet au gingembre.
Attablés devant nos boissons respectives, nous en profitons pour programmer notre soirée.
Où nous resterons ?
Marilyn s'enquiert de mes goûts.
Je ne sais pas trop, et lui explique ma perplexité.
Je ne connais pas grand-chose à Liège, et encore moins les restaurants.
Un restaurant italien, peut-être ?
Oh oui, on pourrait aller au Danieli, me répond-elle en interrogeant son homme du regard.
Alain acquiesce. Il est encore tôt, mais nous décidons d'y aller déjà pour réserver une table.
Et non, complet pour ce soir.
Marilyn nous propose alors la Zouesse.
Va pour la Zouesse.
Le nom ne me dit strictement rien, mais pourquoi pas.
En chemin, Marilyn interdit à Alain de prendre de l'andouillette.
Tandis qu'Alain sourit, je leur avoue mon ignorance.
De l'andouillette, je ne sais pas ce que c'est.
Alain m'explique. C'est une préparation à base d'intestin de porc ou de veau emballé en boyaux.
Et ça pue, ajoute Marilyn.
Mais non, rétorque Alain.
Oh si, insiste Marilyn, qui se tourne vers moi, convaincante.
Je t'assure, il ne faut pas prendre ça. Cela sent vraiment les intestins et ce qu'ils contiennent.
Entre-temps, nous sommes arrivés à la place du marché. Les commerçants ont installé leurs échoppes en prolongement du marché de Noël et les clients sont au rendez-vous.
Alain et Marilyn ne se souviennent plus de l'emplacement précis du restaurant.
Il faut dire que des restaurants, il n'y a pratiquement que cela à la place du marché.
Ils finissent par le trouver.
Ah, las ou est-ce ?
Eh bien, je comprends que je n'aurais pas été d'un grand secours. J'aurais pu chercher encore longtemps.
Le restaurant ouvre à 18 heures. Il nous reste un quart d'heure à attendre.
Marilyn propose que nous attendions devant, Alain et moi, pour y réserver une table dès l'ouverture, tandis qu'elle va acheter une bouteille de Péquet au gingembre qu'ils ont apprécié à la maison du Péquet.
Je raconte à Alain que je relis pour l'instant mes journaux intimes et je lui dis à quel point je suis surprise de découvrir ce que j'écrivais à l'époque.
« À quel âge as-tu commencé ?» me demande-t-il.
« À 15 ans. Avant, j'écrivais des histoires pour enfants. »«
Ah bon ?»«
Oui, je viens d'une famille nombreuse et mes parents ne roulaient pas sur l'or.
J'adorais lire, j'étais un véritable rat de bibliothèque.
Enfin, quand je dis rat. »
C'était toujours un bonheur de fréquenter les librairies, les foires aux livres, pouvoir toucher ces livres neufs, en humer l'odeur si particulière.
Lorsqu'un livre me tentait par son titre ou son résumé, je me consolais rapidement de ne pas pouvoir l'acheter. J'avais tout simplement pris l'habitude d'imaginer l'histoire à partir du titre et de l'écrire moi-même.
Le restaurant a ouvert ses portes. Alain entre immédiatement réserver une table tandis que j'attends Marilyn à l'extérieur. Elle ne tarde pas à arriver.
Nous rejoignons Alain qui nous annonce la bonne nouvelle. Nous pouvons nous installer.
Ouf, nous voilà rassurés, Marilyn et moi.
Ça creuse la randonnée.
Et c'est reparti, me revoilà plongée dans le Moyen-Âge à la lecture de la carte. Pieds de cochon grillés, tête et langue de veau à la sauce madère, jambonneau, rognon de veau.
Nous voilà lancés dans une conversation sur l'ambiance du restaurant, sur les menus proposés.
J'imagine sans peine les banquets médiévaux, les sangliers entiers posés sur les tables, les jambonneaux dévorés à pleine main, le vin coulant à flots.
Après quelques hésitations, je me décide. Je prendrai la tête et langue de veau à la sauce madère. J'explique mon choix à mes commensaux.
La langue de veau à la sauce madère, c'est ma Madeleine de Proust.
S'il savait que je n'ai pas lu Proust.
Non, mais j'ai bien aimé l'imaginer. Tous les ans, le 1er janvier, la femme de mon oncle réunissait toute la famille et nous servait son plat préféré, de la langue de veau à la sauce madère. Je me souviens très bien de la première fois. Quelle difficulté à accepter cette odeur qui prenait d'assaut mes narines et que tout mon corps rejetait à la limite du haut le cœur. Quelle épreuve pour avaler les premières bouchées tandis que je fustigeais mentalement l'idée de servir un plat au goût si prononcé à de jeunes enfants. Chaque année se déroulait le même scénario. Le fol espoir que l'année nouvelle apporterait un changement de menu, mais j'étais vite rattrapée par la réalité. Puis, au fil des ans et en grandissant, je me suis mise à accepter ce menu récurrent, puis à l'apprécier pour son unicité. À ce jour, je n'avais jamais mangé de la langue de veau un autre jour que le premier de l'an. Mais cette tradition s'est arrêtée un jour brutalement, il y a 17 ans, au décès de ma tante. Bah oui, une excuse valable. Quand la serveuse nous apporte nos plats respectifs, je suis rattrapée par mon imagination, clairement aidée par le thème du jour, il est vrai. Gloups ! À force d'invoquer le Moyen-Âge, une image s'est imposée à mon esprit lorsque la dame a posé devant moi une petite cocotte noire surmontée d'un couvercle. J'ai eu peur, l'espace d'un instant, de comprendre pourquoi le menu spécifiait tête et langue de veau. Contrairement à ma tante, qui se contentait de servir la langue découpée en fines tranches. Au secours ! Ils n'auront quand même pas laissé la tête entière ? Vite chassée de mon esprit tordu l'image de cette tête grillée sur les buffets de l'époque. Ouf, mais non, nous sommes bel et bien en 2008. Il est 21h30. Le restaurant est devenu fort bruyant. Marilyn nous propose d'aller inaugurer sa nouvelle console de jeu. « Ainsi, tu verras Platon », me dit-elle. Je me doute qu'il s'agisse d'un animal. Supposition vite confirmée par Alain qui me demande si je ne suis pas allergique aux chats. Non, mais je ne les aime pas. Marilyn s'étonne. « Oh, tu n'aimes pas les chats ?»« Non, parce que j'aime les oiseaux. »« Oh, mais tu verras, le mien est très gentil et il ne mange pas les oiseaux. »« J'ai même une tortue et il s'entend très bien avec elle. » Je n'insiste pas pour ne pas l'offenser, mais je ne peux m'empêcher de sourire à l'idée du chat et de la tortue aquatique. Je n'en doute pas, moi, qu'il l'aime. Je suis même sûre qu'il l'aimerait encore davantage si elle n'était pas hors de sa portée. Je passerai encore une bonne heure en leur compagnie, puis je décide de les laisser. Ils ont à honorer la réputation du gingembre, ces deux-là. Ainsi s'achève une belle journée, à la recherche du temps mélangé. Dès le lendemain, je décide de relater notre randonnée. Une randonnée dans les fagnes, qu'il disait. J'interromps l'écriture pour sortir pendre mon linge dans le jardin. Comme je suis dissimulée par la haie de Thuya, le voisin ne m'a pas vue et continue à chanter de bon cœur. Je reconnais sans peine l'air des Carmina Burana. Décidément, le médiéval me poursuit. Je fais une fixation ou quoi? Mais non, pas de panique. Le temps n'existe pas. Qui a dit que le temps existait d'abord? On sait bien que c'est une invention de l'homme, non ?